Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 12 à 21 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى
لا يصلاها الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء
Certes, oui, à nous de guider. Certes, oui, et à nous l'au-delà et le présent. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne tombera que le très malheureux. Et celui-là même qui crie au mensonge et tourne le dos, alors quand sera écarté le pieux, celui-là même qui donne ses biens pour se purifier, sans que personne lui ait fait un bien dont ce soit la récompense, mais pour la seule recherche du visage de son Seigneur, le Très-Haut. Et certes, il va bientôt agréer.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce vendredi 7 octobre 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Yémen, pillage de pétrole par la France. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. À la une de ce journal, les ennemis de la révolution et les monaféries ont tenté de poursuivre leurs objectifs anti-iraniens au sein de l'université Sharif, déplore le président Raïsi. Trouble en Iran, la résolution interventionniste du Parlement européen est rejetée et n'a aucune valeur, insiste Téhéran. Et puis les États-Unis étudient un nombre d'options de réponse à l'Arabie saoudite après la décision de l'OPEP+. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Les États-Unis, le groupuscule terroriste OMK et d'autres ennemis du pays ont tenté de poursuivre leurs objectifs anti-iraniens et anti-révolutionnaires au sein de l'université Sharif, mais la connaissance des professeurs et des nobles étudiants de cette université les a empêchés d'atteindre leurs objectifs malveillants, a déclaré jeudi le président Raïsi. S'exprimant jeudi lors d'une réunion avec le ministre de la Science, de la Recherche et de la Technologie et un groupe de professeurs de la très prestigieuse Université de Technologie Sharif, basée à Téhéran, le président Ebrahim Raïsi a évoqué les incidents indésirables survenus à l'université lors des récentes émeutes. Le président iranien a souligné que le prestige et le crédit des centres d'éducation doivent être préservés, ajoutant que personne n'a le droit de porter atteinte au caractère sacré de cet espace sacré et tout le monde, des fonctionnaires aux professeurs et étudiants, a le devoir d'essayer de préserver le caractère sacré de cet endroit. M. Raïsi a également souligné que l'université Sharif joue un rôle de premier plan dans l'avancée du pays vers le développement, affirmant que tout le monde doit s'assurer que les ennemis dirigés par les États-Unis, le groupe terroriste de l'OMK et d'autres malfaiteurs doivent être tenus à l'écart de l'accès à la très prestigieuse université. Le président Raïsi a ordonné aux appareils concernés d'intensifier leurs efforts pour s'assurer que les activités d'enseignement et de recherche de l'université reviennent à la normale dès que possible. Téhéran a vivement critiqué le Danemark pour son incapacité à assurer la sécurité de l'ambassade et de l'ambassadrice d'Iran après qu'un assaillant armé a fait irruption sur le site diplomatique. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déploré le fait qu'une telle attaque se produise contre un ambassadeur en toute impunité diplomatique au cœur de l'Europe. Le très haut diplomate iranien, Hossein Amir Abdollahian, s'exprimant à l'occasion d'une conversation téléphonique avec l'ambassadrice d'Iran à Copenhague, a également fustigé la police danoise pour sa réponse tardive à l'intrusion. Amir Abdullahian a fait ses remarques lors d'un appel téléphonique jeudi 6 octobre avec l'ambassadrice d'Iran au Danemark, Afsaneh Nadipour, qui l'a informée sur l'incident. Selon la diplomate iranienne, après avoir pénétré dans les locaux de l'ambassade, l'agresseur armé au couteau a commencé à menacer le personnel et à endommager les véhicules sur le parking. De nombreuses armes blanches fabriquées à la main, mais aussi chaudes, ont été découvertes et saisies auprès des fauteurs de troubles qui se passaient également pour manifestants ces jours-ci à l'intérieur de l'Iran. Selon une toute récente information publiée jeudi, les forces de la police ont découvert dans un parc de la province septentrionale de l'Iran, Mazandaran, environ 80 cartouches d'armes blanches insérées dans un sac afin que les fauteurs de troubles puissent les utiliser au moment opportun. À cela s'ajoutent des boissons alcoolisées, des drogues et toutes sortes de masques et d'armes artisanales qui ont été découverts chez ces personnes. Ils avaient pour objectif de frapper les gens sur place aussi fort que possible selon les forces de la police et de sécurité sur place. Pour les autorités iraniennes, il ne faut pas minimiser les événements connus loin de là, car derrière la couverture des aspirations et des revendications pacifiques, il y a des mains cachées qui cherchent à rétablir le désordre, mais aussi à user, à abuser des rassemblements à des fins intéressées et néfastes. Nombre de personnes ont été choquées par ces violences urbaines, certaines durablement d'ailleurs. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a qualifié d'inadmissible une résolution adoptée par le Parlement européen sur les récents troubles dans le pays. Nasser Kanani a déclaré que la résolution n'avait aucune valeur car il s'agit de la manifestation d'une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de l'Iran. Le diplomate a accusé le Parlement européen d'adopter systématiquement une approche à deux poids deux mesures, affirmant que la résolution est basée sur les préjugés et les informations partiales et partielles envers l'Iran. La résolution appelait à des sanctions de l'Union européenne contre des responsables iraniens pour les prétendues violations des droits de l'homme et répression des manifestations. Les manifestations ont éclaté dans plusieurs villes iraniennes à la mi-septembre après la mort de la jeune femme Mahsa Amini. Dégénérés en violence, les rassemblements se sont ensuite transformés en émeutes. L'Iran a imputé les incidents à des éléments étrangers, ayant publié vendredi un rapport médico-légal officiel qui indique que la jeune fille est décédée des suites d'une défaillance de plusieurs organes causée par une hypoxie cérébrale, pas de coup. Fort du soutien logistique médiatique dans diverses langues, dont notamment persanophones, les pays interventionnistes occidentaux et leurs alliés hostiles à l'Iran font systématiquement recours à des interprétations erronées et provocatrices et avancent des commentaires biaisés et indiscrets sur ce qui se passe en Iran. Ces dernières années, avec le soutien de leurs maîtres interventionnistes et impérialistes qui sont hostiles à un Iran fort et indépendant, les éléments anti-iraniens en Europe et aux États-Unis cherchent à semer le chaos en Iran. Leurs espions, leurs mercenaires, leurs médias et tribunes rémunérées, dont les experts sont déconnectés des réalités de l'Iran et du monde aujourd'hui, paradent et dupent des jeunes et des acteurs amateurs sans scrupules. Il crée une chaîne de mensonges pour gonfler les nouvelles décevantes autour de l'Iran, diffamer les autorités de l'ordre de la République islamique et tromper l'opinion publique internationale par le biais de financements sales, d'histoires déformées et de campagnes de dénigrement massifs. Le ministre iranien des Affaires étrangères a une fois de plus rejeté les allégations selon lesquelles son pays aurait fourni à la Russie des armes pour la guerre en cours en Ukraine. Hossein Amir Abdollahian dit que Téhéran n'a pas fourni et ne fournira aucune sorte d'armes à la Russie pour qu'elle soit utilisée dans la guerre. Il a fait ses remarques lors d'un appel téléphonique avec son homologue finlandais, Pekka Haavisto. Amir Abdollahian a déclaré que son pays souhaitait que la Russie et l'Ukraine résolvent leurs conflits par des moyens politiques et la diplomatie négociée. Il a souligné que toute forme d'aide militaire aux belligérants ne ferait que retarder le rétablissement de la paix. L'armée ukrainienne a récemment accusé la Russie d'utiliser des drones de fabrication iranienne dans la région de Mykolaïv. Kiev a également annoncé la dégradation des relations diplomatiques avec l'Iran en invoquant un prétexte similaire. Téhéran a regretté cette décision et a conseillé à l'Ukraine d'éviter d'être influencée par des tiers qui cherchent à porter atteinte aux relations entre les deux pays. Enfin, la Maison-Blanche a déclaré qu'elle examinait les options sur les liens avec l'Arabie saoudite en réponse à une décision du Royaume et d'autres membres de l'OPEP+, de réduire la production, je vous le disais en titre, de pétrole. Lors d'une conférence de presse tenue dans la journée du jeudi au Pérou, Blinken a qualifié la décision de réduction de la production de pétrole prise par l'OPEP+, de mesure à courte vue, dixit et décevante, rapporte la chaîne d'information américaine CNN. Le secrétaire d'État américain a ajouté que les États-Unis ne prendront aucune mesure qui nuise à leurs intérêts. Nous prendrons tous ces intérêts en considération et consulterons étroitement toutes les parties prenantes concernées lorsque nous déciderons de prendre des mesures, a-t-il expliqué. Le chef de la diplomatie américaine n'a pas précisé les mesures que les États-Unis prendraient. Mercredi, les pays producteurs de pétrole et leurs alliés, dont la Russie, ont convenu de réduire considérablement la production de pétrole. Cela pourrait faire grimper les prix de l'essence aux États-Unis à l'approche des élections de mi-mandat le 8 novembre. Le vote est crucial pour les démocrates car ils défendront le contrôle des deux chambres du Congrès. Alors que l'administration Biden évalue les options sur les liens avec les Saoudiens, les membres démocrates du Congrès appellent à une réduction des ventes militaires à Riyad, citant l'énorme bilan civil causé par la guerre du Royaume au Yémen, soutenu d'ailleurs par Washington. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Yémen, pillage de pétrole par la France. La Légion étrangère française au Yémen, pour pomper du gaz vers l'Europe, s'interroge l'auteur d'un article. Suite au déclenchement du conflit en Ukraine, la France a cessé d'utiliser le gaz russe. Pour le remplacer, le pays emploie des tactiques impérialistes du 19e siècle, à savoir rien d'autre que le pillage des ressources d'un autre pays par la force. Peut-on lire dans un article paru sur le site web de Presse TV français. À peine quelques jours après que le Figaro a publié une enquête révélant l'implication de grandes entreprises françaises dans le meurtre d'enfants au Yémen, avec le soutien de la France, la chaîne Al-Masira a fait état dans un rapport publié jeudi 6 octobre des mouvements suspects des forces françaises dans les provinces du nord du Yémen en vue de piller les ressources pétrolières et gazières yéménites. La crise énergétique en Europe, due à la guerre en Ukraine et à la fermeture des robinets de pétrole et de gaz de la Russie aux Européens, a mis la France dans une situation tellement difficile qu'elle cherche maintenant à aller s'emparer des ressources pétrolières et gazières yéménites. Mais ce n'est pas tout. Outre le soutien logistique et politique à Riyad et à Abu Dhabi, indiqué Al-Masira, la France a livré du matériel militaire, des munitions et des services de maintenance pour environ 9 milliards d'euros à ces deux pays, sans compter son implication directe dans les batailles sur la côte ouest du Yémen. Suite à la révélation faite par le Figaro sur l'implication des unités de combat français dans l'attaque contre la province yéménite de Hudaïda, Le ministère français de la Défense s'est évertué à justifier son intervention sous prétexte de déminage des voies navigables, ce qui, selon le rapport, n'est rien d'autre qu'une échappatoire pour ne pas assumer la responsabilité des conséquences humaines et juridiques. En effet, poursuit le rapport, plus de 7 ans se sont écoulés depuis le déclenchement de la guerre au Yémen, mais les gouvernements en France n'ont pas changé la position hostile de Paris envers le Yémen, dont l'indépendance ne va pas dans l'intérêt de la France. Le rapport décrit les agissements de la France au Yémen comme prélude à la mise en œuvre du plan visant au pillage des ressources vitales du Yémen. Il s'agit de la visite de l'ambassadeur de France il y a quelques jours dans la ville yéménite d'Al-Mukalla, capitale de la province d'Hadramout, pour discuter de l'extraction de gaz dans le port de Belaf. L'ancien ministre yéménite des Affaires étrangères, Abou Bakr al-Kirbi, avait annoncé plus tôt l'arrivée d'un groupe de forces militaires françaises dans le port de Belaf, au sud de la province de Chabwa, à environ 350 km à l'est d'Aden, pour la soi-disant mission de sécuriser d'importantes installations de l'extraction du gaz naturel liquéfié, GNL. L'ancien ministre a déclaré que les préparatifs français étaient en cours pour exporter du gaz de l'installation de Belaf à la lumière de l'augmentation du prix du gaz dans le marché mondial. La France, ajoute-t-il, entend réduire la dépendance de l'Europe vis-à-vis du carburant russe dans le contexte de la crise énergétique mondiale exacerbée par le conflit en Ukraine. Les installations de l'extraction du gaz naturel à Belaf ont été mises en service en 2006 et fermées en avril 2015, un mois après le lancement de la campagne militaire de la coalition saoudienne contre le Yémen. Depuis lors, Belaf est devenu le principal bastion des forces émiraties au Yémen. D'ailleurs, le gouverneur de Chabwa, Mohamed Saleh bin Adio, a accusé les Émirats arabes unis de s'emparer de Chabwa pour faire mainmise sur les ressources gazières de la province. Pendant longtemps, la zone autour de Belaf a été considérée comme bastion des terroristes d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique et les Émirats arabes unis ont été accusés de leur fournir des armes. Une enquête menée par Amnesty International et CNN au début de 2019 a révélé que les armes occidentales vendues aux Émirats arabes unis se sont retrouvées entre les mains de groupes affiliés à Al-Qaïda. La France fera-t-elle l'objet des frappes d'Ansar Allah maintenant que la trêve a pris fin et que le mouvement a appelé les pétroliers occidentaux à se retirer du Yémen? Un haut responsable d'Ansar Allah a déclaré que les forces armées du pays cibleraient les installations pétrolières au plus profond de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis au cas où les droits du peuple yéménite ne seraient pas respectés. S'exprimant lors d'une interview accordée à la chaîne de télévision libanaise Al-Mayadin, Mohamed Al-Boukati, membre du bureau politique d'Ansar Allah, a averti que les forces armées yéménites avaient la capacité de cibler l'Arabie saoudite et les installations pétrolières des Émirats arabes unis si les demandes légitimes du peuple yéménite n'étaient pas satisfaites et que le blocus contre le pays se poursuivrait. Il a souligné que la résistance yéménite disposait de missiles navals avancés et que si le blocus contre le Yémen n'était pas levé, ces missiles joueraient un rôle décisif pour mettre fin à la bataille. Qui dit le maintien du blocus contre le Yémen dit la poursuite de la guerre. Ansar Allah n'acceptera pas de cesser le feu permanent ni à long terme, a noté le responsable, ajoutant que les pays agresseurs empêchent les navires d'entrer au Yémen par la force des armes, ce qui entraînera une riposte écrasante des forces yéménites.
Thank you. Bonjour à tous, bienvenue sur notre plateau ici à Téhéran. Aujourd'hui, le débat, un sujet, deux intervenants. Nous allons parler aujourd'hui de l'Algérie et de la situation géopolitique de l'Algérie à l'heure actuelle, notamment de ses dernières démarches. Si on regarde ces 12 derniers mois, l'Algérie a beaucoup évolué au niveau de sa politique internationale. Comme d'habitude, pour le débat, nous avons un petit reportage qui explique la vision voulue du débat et par la suite, nous allons accueillir nos deux invités. Tout de suite, le reportage.
Alors que tous les regards sont tournés vers le front ukrainien en Méditerranée, l'actualité passe sous silence des tensions permanentes que subit l'Algérie depuis l'attaque de l'OTAN contre la Libye. Cette attaque illégitime et illégale a provoqué des bouleversements dans toute l'Afrique du Nord. Mais le pays qui en a le plus souffert, notamment en raison de son opposition politique permanente à l'Occident, directe ou indirecte, et de son amitié avec l'Iran et sans aucun doute l'Algérie. En effet, l'Algérie a vu ses frontières mises en danger à de nombreuses reprises, que ce soit à l'ouest, à l'est ou même au sud. Il n'est donc pas étonnant qu'après 10 ans de pression de toutes sortes, ce pays d'Afrique du Nord rêvant d'une Union africaine forte et unie et choisie, comme de nombreux pays subsahariens, de trancher dans le vif, de sortir de l'ambiguïté et de définir clairement sa politique étrangère. Pour ce faire, il suffit de regarder les actions internationales de l'Algérie au cours des 12 derniers mois. On peut ainsi constater que l'Algérie souhaite entrer dans les BRICS, un souhait approuvé notamment par la Chine. Il y a aussi le fait que l'Algérie achète du matériel militaire et s'est réarmée notamment en drones russes. Il y a aussi le fait qu'Alger ait initié des actions pour rassembler les factions palestiniennes. En effet, le 5 juillet 2022, le président Tebboune a rencontré à Alger le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas et le chef du bureau politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh. Une rencontre qualifiée d'historique qui a mis fin à plusieurs années de froid entre les deux hommes politiques. Rappelons également qu'en novembre, l'Algérie et la Russie organiseront ensemble des exercices militaires, tandis qu'au début du même mois se tiendra le 31e sommet de la Ligue arabe, un sommet qui ne s'est pas tenu depuis 13 ans. Le fait que le Maroc s'arme de plus en plus auprès de l'entité sioniste, alors que l'Algérie a toujours soutenu la cause palestinienne, est certainement l'une des raisons des dernières actions d'Alger.
Alors l'Algérie à l'heure actuelle, depuis en fait la mort de l'ancien président, depuis l'arrivée du président Tebboune, alors bien entendu ce n'est pas seulement lui qui prend les décisions de son gouvernement, mais il faut bien avouer, les choses ont beaucoup changé depuis surtout ces 12 derniers mois. Nous accueillons donc d'abord nos invités, tout d'abord Monsieur Luc Michel, géopoliticien à Bruxelles. Bonjour Monsieur Luc Michel.
Bonjour à vous, à votre plateau et à mon collègue Monsieur Abroudi.
Est-ce que vous nous recevez?
Oui.
Alors notre deuxième invité, Monsieur Imadedine Amrouni. Bonjour Monsieur Amrouni, comment allez-vous? Alors analyste politique, comment allez-vous? Bienvenue sur notre plateau.
Bonjour à vous et à votre cher invité de Bruxelles.
Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, le sujet c'est l'Algérie. Beaucoup de choses vont arriver dans un mois, en novembre, que ce soit début novembre ou au milieu de novembre, l'Algérie sera bien occupée. On peut voir également une stratégie internationale extrêmement différente. Enfin, on peut dire extrêmement différente parce que l'Algérie est sortie de son ambiguïté. C'est-à-dire, il avait une sorte d'ambiguïté internationale politique du fait de son approchement avec la Méditerranée, avec l'Europe, et du fait aussi qu'il n'était pas forcément clair, même par rapport à la situation palestinienne. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous considérez que les 12 derniers mois de travail de l'Algérie montrent une fin de l'ambiguïté algérienne d'un point de vue de la politique internationale?
L'Algérie, historiquement, c'est un pays qui est très important en Afrique, dans la Méditerranée et dans le monde arabe. Il faut rappeler que l'Algérie, d'abord, c'est la révolution algérienne. La révolution de 1,5 million de martyrs Et cette révolution était la base de tous les mouvements révolutionnaires en Afrique et dans le monde arabe. Donc il y a une histoire algérienne basée sur la révolution populaire et sur l'armée populaire algérienne. Et donc l'histoire de l'Algérie, c'est une histoire d'affrontement avec le système colonial, c'est-à-dire la France, mais au-delà, pour bâtir l'État-nation algérien. Et donc, on a mis beaucoup de temps, presque un demi-siècle, pour voir l'Algérie d'aujourd'hui. L'Algérie, elle est riche, riche en matières premières, en gaz, en pétrole, mais riche en histoire et riche aussi dans sa jeunesse algérienne, qui a fait beaucoup de révolutions et de réformations de la société, mais elle a subi 10 ans de guerre civile. Et donc, ces 10 ans de guerre civile ont retardé l'émergence de l'Algérie. Aujourd'hui, avec le changement géopolitique au niveau international, l'importance de l'Algérie revient sur le plan énergétique, mais surtout sur le plan géopolitique. Et donc, la nouvelle donne de l'Algérie, c'est être influente au niveau du continent africain, au niveau du monde arabe, mais surtout avec son importance énergétique au niveau des relations internationales entre la Russie, l'Europe et les États-Unis et la Chine, bien sûr.
Merci, Monsieur Amrouni. Alors, on va essayer avoir notre deuxième invité, Monsieur Luc Michel, est-il de retour ?
Mais je n'ai jamais bougé, madame.
Alors, le son ne vient toujours pas du côté de Monsieur Luc Michel. Alors, Monsieur Amrouni, beaucoup de gens, à l'heure actuelle, quand on regarde l'actualité internationale, parlent beaucoup du rapprochement de l'Algérie avec la résistance palestinienne, son envie d'être le médiateur, un rôle qui était souvent joué par la Turquie ou par l'Égypte. Qu'en pensez-vous, Monsieur Amrouni ?
C'est-à-dire que l'Algérie, elle est toujours au cœur de la cause palestinienne, même avant l'indépendance, et pendant la guerre de 48, après la guerre de 67 et la grande guerre de 73, qu'on va, dans quelques jours, le 6 octobre 1973, les armées arabes, égyptiennes, syriennes, algériennes, marocaines, tunisiennes, irakiennes, a gagné cette guerre de 1973. Et donc l'Algérie, elle était au cœur de la lutte palestinienne. Elle a reçu des représentants de mouvements de la résistance palestinienne sur le territoire algérien. Elle a formé et armé la résistance palestinienne lorsqu'elle était au Liban. Et donc l'Algérie n'était jamais en dehors de la cause palestinienne. Par contre, le fait qu'il y a eu cette guerre civile, qu'il y a eu cette pression contre l'Algérie, on a vu l'absence de l'Algérie pendant à peu près une quinzaine d'années. Aujourd'hui, l'Algérie nouvelle, elle met en axe central la cause palestinienne, ce qui a dérangé un peu les Égyptiens et un peu les Turcs. Mais la relation commerciale, politique entre l'Algérie et la Turquie, elle est excellente. Entre l'Égypte et l'Algérie, diplomatiquement, elle est bonne, mais l'Algérie veut reprendre cette cause palestinienne parce qu'elle est au centre de toutes les problématiques de relations diplomatiques entre les pays arabes et surtout le changement tactique du Maroc qui a formalisé ses relations avec l'entité sioniste et s'est rapproché militairement et aussi politiquement de l'entité sioniste, ce qui a fait que l'Algérie, aujourd'hui, elle met au centre de ses actions à l'extérieur la cause palestinienne, et donc elle va être présente comme elle était dans les années 60, dans les années 70 et au début des années 80. L'Algérie revient dans l'affaire palestinienne, c'est-à-dire qu'elle va mettre tout son poids politique, mais aussi populaire, pour aider les Palestiniens à retrouver leur indépendance.
Merci, Monsieur Amrouni. Alors, notre deuxième invité, Monsieur Luc Michel. Je pense que la situation s'est améliorée. Bonjour, Monsieur Luc Michel. Non, la situation ne s'est pas améliorée. Alors, il y a une chose qui est quand même intéressante, c'est que le moment opportun qu'a choisi l'Algérie d'inviter donc les représentants des deux plus gros partis de la résistance palestinienne a été bon tout d'abord lors de leur anniversaire de la révolution algérienne, c'est-à-dire leur indépendance plutôt, mais surtout, ça arrive à un moment de tension entre le Maroc parce que le Maroc se réarme, pas chez les Américains ou chez les Européens, mais se réarme chez les Israéliens, alors qu'il faut l'avouer, sur beaucoup de dossiers, l'Algérie est un point mort pour l'entité sioniste, puisqu'il l'empêche, par exemple, de participer aux Jeux de Méditerranée, ils empêchent également le gazoduc israélien, puisqu'on ne doit pas oublier le côté des territoires au niveau des eaux. Et l'Algérie est quand même un point mort pour l'entité sioniste. Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un jeu de géopolitique? On n'oublie pas le fait qu'ils sont amis avec la Palestine, mais là, il y a également un enjeu qui est stratégique.
Bien sûr, c'est un enjeu stratégique qui est en cas de résistance face à l'État sioniste. Il faut rappeler que les pays de l'Afrique du Nord, ils sont éduqués sur la haine du sionisme. C'est-à-dire la Tunisie, les Libyens, les Algériens et même les Marocains et les Mauritaniens, si on les laisse les frontières par l'Égypte ou par ailleurs, toute cette population va venir libérer la Palestine, sans aucun doute. Donc on est éduqué sur la haine du sionisme. Et donc la force de l'Algérie d'aujourd'hui, c'est qu'elle cherche à s'imposer en tant pas simplement que médiateur entre Palestiniens ou entre pays arabes. Au contraire, elle va se retrouver au cœur de l'aide et l'appui à la résistance palestinienne. C'est-à-dire ça, c'est un changement stratégique pour l'Algérie. Mettre en place une résistance palestinienne plus rigoureuse, plus armée, plus entraînée, mettre les moyens diplomatiques pour aider le peuple palestinien à retrouver son territoire. Et donc, l'Algérie a choisi ce positionnement qu'elle est contre le sionisme, c'est pas simplement politiquement, mais elle va œuvrer aussi militairement dans le renseignement et même. Donc c'est un changement important de la politique étrangère algérienne d'aujourd'hui.
Merci Monsieur Amrouni. Monsieur Luc Michel, bienvenue sur le plateau.
Oui, bonjour. Mais j'étais là, mais nous avions un problème technique.
En tout cas, nous, on sera ravis de pouvoir vous entendre. Alors, nous parlions donc de l'Algérie. Vous avez vu le reportage, ou en tout cas entendu le reportage. L'Algérie, ces 12 derniers mois, a fait un bond extrêmement différent de sa politique étrangère qu'on a pu connaître par la suite. Il ne faut pas oublier que l'Algérie a connu un nouveau président, M. Tebboune, qui représente une sorte de groupe plutôt paramilitaire, puisque M. Tebboune sort de ce côté paramilitaire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur l'Algérie d'aujourd'hui, notamment de son rapprochement avec la résistance aussi clairement, je veux bien dire, parce que bien entendu, la Palestine et l'Algérie ont toujours été amis, mais là, les choses ont quand même un petit peu changé. Qu'est-ce que vous pourriez dire, s'il vous plaît, monsieur?
La géopolitique a horreur du vide. Et depuis une dizaine d'années, c'était la Libye de Kadhafi qui était l'état géopolitique pivot de l'Afrique du Nord et du Sahel. Et là, jamais rien n'a été détruit. Ensuite, ce rôle a été assumé par le Tchad de mon ami le maréchal Idriss Déby. Donc, il était aussi assassiné. Et aujourd'hui, l'Algérie, elle assume ce rôle de pivot géopolitique de l'Afrique du Nord et du Sahel. Et elle renoue avec la grande politique algérienne des années 60. Elle renoue avec la politique d'alliance avec Moscou. Hier, elle était l'alliée principale de l'URSS. Elle est aujourd'hui l'alliée principale de la Russie, de Poutine. Elle est en Méditerranée occidentale, la principale opposition à l'OTAN et aux Américains. Il est en train de changer toute la géopolitique de l'Afrique du Nord. Le journal, l'hebdomadaire parisien Le Point, disait il y a quelques semaines que le Maghreb était dominé par une politique qu'il appelait « mauvaisée de Moscou » et qui est initiée par l'Algérie. On voit les conquêtes américaines du printemps arabe peu à peu s'en détourner. On se souvient que l'Algérie, c'était la cible initiale du printemps arabe, puisque le pays avait été attaqué dès décembre 2010 et que la maturité politique du peuple algérien, qui avait connu 10 ans de guerre civile, avait refusé l'aventure occidentale avant qu'elle ne se déporte vers la Tunisie, la Libye et l'Égypte. Mais également, aujourd'hui, il y a ce rôle de l'Algérie vis-à-vis des Palestiniens. Et même vis-à-vis du Maroc, les choses sont en train de changer. Puisqu'on a vu il y a quelques mois que le Maroc...
On vient de perdre Monsieur Luc Michel. Monsieur Luc Michel, bienvenue de retour donc sur notre plateau. Alors ma question était sur le fait que depuis ces dernières années, en fait, on parle beaucoup des tensions entre Taïwan et l'Ukraine, mais on ne parle pas assez des tensions qu'ont connues l'Algérie du côté est, ouest, mais également du sud avec le Sahel, les investissements militaires que l'Algérie a fait ces 10 dernières années, qui lui permet aujourd'hui donc de jouer un rôle beaucoup plus fort en Méditerranée.
Écoutez, c'est la principale armée d'Afrique du Nord et c'est l'allié principal de la Russie dans le contrôle de la Méditerranée occidentale. On parle même d'un rétablissement de l'ancienne base soviétique pour la marine russe d'aujourd'hui à Mersel-Guébir. L'Algérie, évidemment, c'est un des fronts de la lutte des peuples contre l'impérialisme américain. Vous avez raison de citer l'Ukraine, puisque l'Ukraine a une influence directe en Méditerranée. C'est la diagonale entre Sébastopol et Tartous qui contrôlent la Méditerranée orientale, et l'Algérie et la Russie contrôlent, eux, la Méditerranée occidentale. L'Amérique qui frappe évidemment en mer de Chine et qui frappe la Russie en mer Noire. Également les peuples africains, principalement en Afrique centrale et dans le golfe de Guinée. Il y a une volonté globale de l'Amérique de rester la superpuissance dominante. C'est ce que l'Algérie refuse.
Il ne faut pas oublier aussi que l'un des principaux opposants au gazoduc israélien d'un point de vue étatique, c'est-à-dire d'un point de vue des États, c'est l'Algérie. En autre que le Hezbollah, je ne parle pas de la résistance, mais l'un des pays qui s'oppose directement au gazoduc israélien, c'est l'Algérie à l'heure actuelle.
Oui, mais écoutez, c'est normal puisque l'Algérie est un puissant État pétro-gazier et elle est unie à la Russie, à l'Iran, à la Guinée équatoriale et au Sénégal dans ce qu'on appelle l'Association des États producteurs de pétrole, qu'on appelle vulgairement l'OPEP du gaz. L'Algérie est donc consciente des enjeux énergétiques, de la guerre du gaz et de la guerre du pétrole, et évidemment, elle s'oppose aux projets occidentaux et sionistes dans ce domaine.
À ceux qui diraient que le sommet qui va avoir lieu le 1er novembre 2022, donc la Ligue arabe, qui voudrait dire que l'Algérie souhaite se racheter, qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ces propos tenus concernant le fait que c'est Alger qui reçoit la Ligue arabe ?
Écoutez, je ne pense pas que c'est un rachat. L'Algérie a vécu une mauvaise période qui était due à une direction chancelante. Et elle est également due à une triste période qui est due à ce qu'on a appelé le printemps arabe et le printemps africain en 2011 et 2000. Aujourd'hui, elle est reprise en main par une direction forte qui est en alliance avec ses forces de sécurité. Il est donc normal qu'elle renoue avec la grande politique africaine de l'Algérie qui était celle du temps de l'OUA d'Alger dans les années 1960-1970.
Merci à Monsieur Luc Michel. Un dernier mot peut-être concernant donc le fait que vers quoi va aller donc l'Algérie dans le futur ? Va-t-elle réussir à rallier la résistance, c'est-à-dire à enlever les discordances qui est entre les plus deux gros partis de la résistance palestinienne ? Est-ce que vous pensez que son coup de pression méditerranéen va être de plus en plus forte ?
Moi, je pense que, mais vous savez que la désunion, ce que j'appelle les frères ennemis de la résistance palestinienne, elle a été encouragée par les Israéliens. Il est donc normal que ceux-ci renoncent à cette politique qui est suicidaire. C'est de l'union du Hamas et de la vieille résistance palestinienne que naîtra évidemment l'indépendance du peuple palestinien. Dans cette disposition, Alger évidemment joue un rôle central. Elle le jouait déjà, je le rappelle, donc au début des années 60. Il faut constater aussi que l'axe de la résistance est puissance et qu'il est capable aujourd'hui de rivaliser, de mettre en échec l'impérialisme israélien, que ce soit à Gaza, en Cisjordanie ou encore au Liban.
Merci beaucoup, Monsieur Luc Michel, pour votre participation aujourd'hui à notre débat. C'est sur ces mots que nous finissons donc le programme débat qui se passe dans les studios de Presse TV à Téhéran. Et moi, je vous dis à la prochaine fois pour un autre sujet.
Les États-Unis déclarent la guerre à la Russie, l'Allemagne, les Pays-Bas et la France. Alors que la presse internationale traite du sabotage des gazoducs Nord Stream sous l'angle du fait divers, nous l'analysons comme un acte de guerre contre la Russie, l'Allemagne, les Pays-Bas et la France. En effet, les trois voies d'approvisionnement en gaz des Européens de l'Ouest viennent d'être coupées simultanément, tandis que toujours concomitamment, un nouveau gazoduc vient d'être inauguré à destination de la Pologne. De même que Mikhail Gorbatchev avait vu dans la catastrophe de Tchernobyl la dislocation inévitable de l'URSS, de même nous pensons que le sabotage des gazoducs Nord Stream marque le début de la chute économique de l'Union européenne. Ainsi, le combat des États-Unis pour maintenir leur hégémonie mondiale a franchi sa troisième étape. Après l'extension de l'OTAN à l'Est en violation des engagements occidentaux sur la non-implantation d'armes états-uniennes en Europe centrale, Moscou, qui ne peut pas défendre ses gigantesques frontières, est directement menacée. En violation des engagements de la Seconde Guerre mondiale, Washington a placé des nationalistes intégraux, des nazis selon le témoignage du Kremlin, au pouvoir à Kiev. Ils ont interdit à leurs compatriotes russophones de parler leur langue maternelle, les ont privés de services publics et en définitive ont bombardé ceux du Donbass. La Russie n'a pas eu d'autre choix que d'intervenir militairement pour mettre fin à leur calvaire. La troisième marche est le changement autoritaire d'approvisionnement énergétique de l'Europe occidentale et centrale. Le même jour, le gazoduc de la Baltic Pipeline est entré en fonction. Les deux gazoducs Nord Stream ont été mis hors d'état, tandis que la maintenance de Turkish Stream a été interrompue. Il s'agit du plus important sabotage de l'histoire, un acte de guerre à la fois contre Moscou et contre Berlin, copropriétaire de ces investissements colossaux, mais aussi contre leurs partenaires, les Pays-Bas et la France. Pour le moment, aucune des victimes n'a réagi publiquement. Pour réaliser ces destructions considérables, il était nécessaire de disposer de sous-marins sur zones que les puissances de la région ont identifiées. S'il n'y a officiellement pas d'indices au sens policier du terme, les caméras de surveillance ont déjà parlé. Les États concernés savent avec certitude qui est le coupable. Soit ils ne réagissent pas et ils seront rayés politiquement de la carte, soit ils préparent en secret leur réaction à cette action secrète et ils deviendront de vrais acteurs politiques lorsqu'ils les réaliseront. Souvenons-nous du coup d'État militaire de 1961 et des tentatives d'assassinat contre le président de la République française Charles de Gaulle. Ce dernier fit semblant de croire qu'ils étaient le fait de l'organisation de l'armée secrète réunissant des Français opposés à l'indépendance de l'Algérie. Mais son ministre des Affaires étrangères Maurice Couve de Mouril évoqua publiquement le rôle de l'Opus des Espagnols et de la CIA états-unienne dans leur organisation et leur financement. De Gaulle rechercha et identifia les traites, il réorganisa la police et les armées et subtilement 5 ans plus tard, il annonça le retrait de la France du commandement intégré de l'OTAN. Il donna 2 semaines à celle-ci pour fermer son siège de Paris-Dauphine et migrer en Belgique. Un peu plus de temps pour fermer les 29 bases militaires de l'Alliance dans le pays. Puis il débuta des voyages à l'étranger pour dénoncer l'hypocrisie états-unienne, notamment la guerre du Vietnam. La France redevient instantanément une puissance phare des relations internationales. Ces événements n'ont jamais été expliqués en public, mais tous les responsables politiques de l'époque peuvent les confirmer. Aujourd'hui, il est particulièrement difficile de comprendre le mal qui vient de toucher l'Union européenne et va, selon toute probabilité, provoquer son effondrement économique, parce que l'Union elle-même a pris certaines des décisions indispensables à sa faillite. Jusqu'au 26 septembre 2022, l'Union était principalement fournie en gaz par la Russie. Celui-ci était acheminé soit via le gazoduc Brotherhood à travers l'Ukraine, soit via le gazoduc Nord Stream, soit par le Turkish Stream. Les États-Unis, qui garantissent la sécurité de l'Union, viennent de couper successivement ces trois chemins. Certes, le gazoduc Brotherhood fonctionne toujours partiellement, mais il peut être définitivement interrompu à tout moment par la volonté de Kiev. Nord Stream a été saboté et Turkish Stream ne peut plus être entretenu en raison des sanctions que l'Union a prises à la demande des États-Unis. Jusqu'au 26 septembre, l'économie de l'Union était principalement fondée sur la production de l'industrie allemande. En coupant le Nord Stream, les États-Unis ont détruit l'industrie allemande. Selon la célèbre formule de Lord Smy, le premier secrétaire général de l'OTAN, la grande stratégie des Anglo-Saxons est de garder les Américains à l'intérieur, les Russes à l'extérieur et les Allemands sous tutelle. Élu en décembre 2021, le chancelier Olaf Scholz a commis deux graves erreurs en quelques mois. À peine élu le 7 décembre, il s'est rendu à la Maison-Blanche où il a tenté de résister aux États-Unis qui lui demandaient de ne plus accepter de gaz russe. Revenu chez lui, il a choisi de maintenir Nord Stream et, tout en cherchant des sources renouvelables, de bloquer Nord Stream 2 et d'appliquer l'accord de juillet. Il pensait à tort équilibrer le bellicisme de la pensée stratégique US, les besoins de son industrie et la doctrine des Verts, membres de sa coalition gouvernementale. Sa seconde erreur a été commise le 16 septembre 2022. Son pays souhaite ne plus être sous la tutelle anglo-saxonne et assurer lui-même à la fois sa propre sécurité et celle de l'ensemble de l'Union européenne. Ainsi, le chancelier allemand a déclaré « En tant que nation la plus peuplée, dotée de la plus grande puissance économique et située au centre du continent, notre armée doit devenir le pilier de la défense conventionnelle en Europe. » 6 jours plus tard, les Navy SEALs faisaient exploser les deux gazoducs de la mer Baltique, ramenant l'Allemagne 11 ans en arrière. Simultanément, le gazoduc Baltic Pipeline était inauguré en grande pompe quelques heures après le sabotage par le président polonais, le premier ministre danois et le ministre de l'énergie norvégien. Ses capacités sont 6 fois inférieures à celles de Nord Stream, mais il suffira pour changer d'époque. Jadis, l'Union européenne était dominée par l'industrie allemande utilisant du gaz russe. Désormais, elle le sera par la Pologne au moyen du gaz norvégien. Rappelons que le premier ministre polonais a déclaré triomphalement sa haine à la cérémonie d'inauguration. L'ère de la domination russe dans le domaine du gaz touche à sa fin. Une ère qui a été marquée par le chantage, les menaces et l'extorsion, a-t-il déclaré. L'acte de guerre commis contre la Russie, l'Allemagne, les Pays-Bas et la France montre que la stratégie américaine n'a pas changé depuis les années 50. En pratique, si aucune réponse n'est apportée à cet acte de guerre, l'Union européenne va s'effondrer économiquement à l'exception de la Pologne et de ses 11 alliés d'Europe centrale, membres de l'initiative des trois mers Intramarium. Le vent tourne, désormais Varsovie court en tête. Les grands perdants seront l'Europe occidentale, mais aussi l'Ukraine, qui n'aura été détruite que pour permettre ce jeu de massacre.
Thank you.